Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée du marché de la poésie. Nous allons commencer cet après-midi de rencontres, de lectures, par une table ronde dans le cadre des états généraux du marché de la poésie qui sont cette année consacrés à la pensée du poème. Ce sera une table ronde autour des revues numériques avec Sereine Berlotier pour Remu.net, Pierre Lepilouer pour Citodis, Marilyn Bertoncini et Carole Carcillo-Mérobian pour Recours aux poèmes, Angèle Paoli pour Terre des femmes, et ce sera André Chabin de la Revue des revues qui va tempérer cette rencontre, et je lui laisse la parole.
Merci Vincent, et merci à vous d'être aussi nombreux à cette heure cruelle des fins d'apéritif ou de début du gâteau du dimanche. Donc on voit que à la fois les revues numériques vous intéressent ou vous intriguent. Donc je vais présenter les gens par ordre, j'allais dire par ordre d'âge, c'est un peu cruel puisque c'est Sereine Berlotier qui est ici à mon extrême droite, j'espère que ça lui convient, qui représentera la revue Remu.net qui a été créée, je ne vais pas revenir sur son archéologie, mais qui est devenue une vraie revue littéraire en 2000. Ensuite, nous aurons, par ordre d'apparition, la revue Citodi, créée, animée par Pierre Lepilouer, qui a vu le jour, si je ne m'abuse, en 2002. 2001, déjà. Je fais une bêtise et c'est pas fini. Ensuite, nous avons ici Angèle Paoli, qui a créé Terre de femmes, si je ne m'abuse, en 2004. C'est juste. Et enfin, Carole Mérobian et Marilyn Bertoncini, qui n'ont pas créé, mais qui ont repris une revue qui avait été créée par Gwen Garnier-Dugui en 2012, dont elles sont désormais les deux co-directrices. Pardon. Alors, c'est vrai qu'en énonçant les dates de création de toutes ces revues, on voit que l'alliance entre la poésie et le numérique s'est fait au moins depuis une grosse vingtaine d'années. Et sans doute répondant à une sorte de manque ou de réparation, puisque effectivement la presse depuis très longtemps est devenue muette, et sur les éditeurs de poésie, et sur les poètes, ou quasi-muettes, c'est les quasi-aphones. Donc en fait, toutes ces revues ont permis que tous les éditeurs que nous avons autour de nous, que tous les poètes qui hantent les allées de ce marché trouvent un écho, une voix critique, un espace de publication. Mais on verra sans doute que les revues numériques que vous avez tous inventées ou que vous faites vivre excèdent de très loin cette fonction simplement réparatrice. Et je voudrais aussi ajouter qu'il y a dans ce domaine des revues numériques ou des sites ou des blogs, enfin on verra, on essaiera peut-être de distinguer ce qui les sépare ou ce qui les unit, il y a une véritable profusion, une richesse. C'est dire que nous aurions pu être extrêmement nombreux autour de sur cette tribune. Je pense évidemment à Florence Trocmé, que nous avons choisi de ne pas inviter, c'est toujours elle. Donc, mais elle est là, je croyais que tu étais partie, c'est pour ça. Donc, qui a créé Poésie Bao en 2004 aussi. Mais je pense aussi à quelqu'un qui fait un travail remarquable, qui a d'ailleurs des ressemblances avec ce que vous faites les uns ou les autres, qui est Cécile Guivarche, qui fait la très belle revue Terrassienne. Mais je pense à une création plus récente et extrêmement ambitieuse qui s'appelle Catastrophe. Mais je pense aussi dans un tout autre... Je vous conseille d'aller voir dans un tout autre genre à une revue qui s'appelle Cunilingus, qui est une revue expérimentale et féministe, une revue de combat. Donc on voit qu'il y a une énorme richesse, pratiquement aussi riche qu'il y a d'éditeurs ici. Mais cette richesse, déjà réunie ici, est bien suffisante. Parce qu'il y a une profusion dans ce que vous créez, c'est absolument magnifique, vertigineux. Je m'y suis immergé, j'ai failli m'y perdre, m'y noyer d'ailleurs, pour préparer un peu cette petite rencontre. et je me suis aperçu en fait que je n'avais jamais rien lu, ou pratiquement. Tant ce que vous proposez comme découverte, comme offre de publication est littéralement vertigineux. Donc, au moins pour ça, soyez remerciés. À ceux qui ne connaissent pas le travail que vous faites, précipitez-vous pour aller le regarder, l'aimer. Alors j'ai employé le mot « revue ». Est-ce que tous ici, vous revendiquez ce terme de « revue » ou est-ce qu'il vous paraît pas tout à fait adéquat aux productions dont vous êtes responsable ou en tout cas membre? Est-ce que finalement, le fait de faire une revue numérique ou un site numérique, je ne sais pas comment les appeler, parce que parfois ce sont des sites qui ressemblent à des plateformes, parfois ce sont des blogs, parfois ce sont des pages. Est-ce que vous, vous revendiquez le terme de revue? Est-ce qu'il vous paraît convenir au travail que fait, par exemple, Remu.net?
Alors oui, en partie, mais pour répondre à la question, j'ai besoin de faire un peu d'archéologie, d'histoire du site. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'ai pas mal de retours. Donc Remu.net, au départ, ce sont des pages personnelles web créées par François Bon en 1997. Donc on est vraiment au tout début de l'Internet littéraire, hein, avec un travail extrêmement pionnier, où à l'époque, publier un texte en ligne, c'était codé à la main des pages en HTML, on voit que c'était un travail assez lourd, un travail d'engagement, voilà, avec un petit noyau d'amis qui mettaient en ligne des textes inédits ou des textes déjà publiés dans ce qui s'appelait, notamment, il y avait un cahier de création, il y avait des dossiers d'auteurs, et c'est ainsi qu'on trouve sur ces premières pages des dossiers consacrés à Antoine Emas, par exemple, hein, qui date de cette époque-là. Et puis, dans les années 2000, François Bon a souhaité élargir un collectif et passer la main, en fait, à ce collectif formé d'écrivains et qui s'est constitué en association. Voilà. Donc, le site a énormément évolué en 25 ans. Voilà. Voilà. Donc la revue, ouais. La question de la revue, oui, il y a une revue, mais ce n'est qu'une brique du site qui, en fait, en comporte plusieurs, des pages auteurs. Donc, voilà.
On en parlera tout à l'heure un peu du contenu.
Pas être trop longue.
Non, c'est très bien.
Voilà, revue, oui, mais pas uniquement. Voilà, c'est une partie du dispositif.
Pierre, à vous, qui est aussi comptait parmi les pionniers des interventions numériques en matière de poésie. Alors, est-ce que c'est une revue ou est-ce que c'est plus que ça? Je connais un peu la réponse, me semble-t-il.
Alors, quand j'ai créé Citaudi en 2001, tout seul, après être venu moi-même du monde de la revue imprimée, j'étais au comité de rédaction de la revue TXT, dont Christian Prigent, Verregan pour les plus connus. J'en profite pour dire qu'il y a une pièce tirée de textes de Verregan en ce moment au Théâtre de la Bastille par Jacques Bonafé. Je vous recommande vivement d'y aller. Donc je venais de là et je n'ai pas voulu créer une revue. J'ai créé ce que j'ai appelé un site de poésie comparative. C'était un peu provocateur, mais ça signifiait une coupure radicale avec l'univers de la revue. Sites de poésie comparative, comme la publicité comparative venait de naître. C'était vraiment se décaler complètement. Cette nuit, je pensais à cette table ronde d'aujourd'hui et je me demandais ce que j'allais dire pour présenter ça. Et j'étais perplexe. Mais en fait, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai rêvé que je faisais la sieste. Ça m'arrive parfois. Et lors de cette sieste, un chat, qui n'est pas n'importe quel chat, comme souvent dans les rêves, c'est la fusion de deux chats. Le chat de l'aîné de nos petits-fils, et pour ce qui est de son nom, et le chat de notre fils pour ce qui est de sa morphologie. Fusion de deux êtres. Alors c'est assez baudelairien comme départ, mais dans ce rêve, le chat venait sur moi et c'était un rêve qui avait beaucoup d'effets de réel. Je sentais ses griffes sur moi. Il m'a tellement pénétré que ça a fini par me réveiller. Ce chat s'est mis à me parler. Et il avait je ne le voyais pas parler, mais il avait la voix d'un enfant. Et au début, il a énoncé un besoin fondamental. Il m'a dit qu'il avait faim. Et après, il a murmuré des choses incompréhensibles. Aussitôt, j'ai eu envie de partager ça avec le cercle des proches qui étaient tout près. J'ai eu envie de leur dire « Votre chat a parlé ». Il a fallu que je surmonte un brouhaha. J'arrivais pas à me faire entendre. Il a fallu que je me fâche. Et ensuite, je leur ai expliqué que leur chat avait parlé. Et là, j'ai rencontré un mur de scepticisme et d'incompréhension. Et je crois que le mouvement de création de Citodi, ça a été ça au départ. C'est-à-dire, il y a des rencontres de livres ou de poèmes envoyés par des gens qui ont créé un tel choc pour moi que j'ai eu envie de le partager, mais très vite, dans l'immédiateté. Et sans réfléchir au contenu, sans théoriser. Aussi bien dans le mode de l'enthousiasme que dans celui du rejet.
D'accord. Merci. Ne racontez pas vos rêves. Mais
c'est promis, celui-ci suffit.
Donc c'est à vous, Carole, Marilyn. Est-ce que vous reconnaissez dans le terme de revue ? C'est vrai que, on va dire, le protocole éditorial de votre travail de recours au poème ressemble à une revue. Mmh. Il y a des livraisons numérotées. Que Angèle aussi, on y reviendra, des livraisons numérotées, un comité de rédaction, des directrices affichées. Donc, est-ce que vous êtes effectivement une revue ? Est-ce que je ne suis pas trompé d'invité ?
Non, c'est bien une revue. Ouais. C'est ainsi qu'on entend. Je ne sais pas si le micro marche.
Non.
Il y a un problème avec ce micro. Tu me passes le tien. Donc, c'est bien une revue dont on a hérité, qui a été créée comme une revue exclusivement numérique, de façon à pouvoir atteindre tout le monde, partout dans le monde, d'une façon économique, pour que la poésie atteigne vraiment même ceux qui n'ont pas accès à des revues papier. Ça a été... Notre projet a été de développer ça en ajoutant des dimensions qu'on ne peut atteindre que par le numérique, notamment le multimédia, auquel Carole a beaucoup participé depuis qu'elle a intégré la revue en 2016. Je vais lui passer la parole, puisque c'est vraiment elle qui s'occupe de tout l'aspect technique en plus de la revue.
Merci. Merci, Marilyn. Voilà, une revue, je rejoindrai ce que disait Sereine, c'est ça ? Est-ce qu'on peut vraiment... On est une revue, mais avec toutes les ouvertures ou les ramifications que permet le numérique. Voilà, c'est-à-dire des liens hypertextes, des archives, etc. Voilà, donc c'est une revue, oui. J'ai pas envie de dire augmentée, mais autrement. Oui, augmentée, voilà. Alors si vous dites oui, je le dis. J'ai le droit.
Voilà. Eh bien, alors, on va penser on va aller du côté d'Angèle Paoli, qui se présente d'ailleurs comme un blog personnel. Mais je dirais que si c'est un blog, c'est chapeau, parce que c'est un blog qui est plus qu'augmenté.
Alors, c'était parti comme plutôt une plateforme personnelle, puisque Terre de Femmes, il y a une géographie, mais c'est un titre polysémique, parce qu'il y avait aussi dans ma tête l'idée de rendre la parole aux femmes de ma famille, de mes ancêtres qui ne l'avaient jamais eue. Au fil du temps, je me suis rendu compte que je n'avais pas de documents suffisants pour donner la parole à ces femmes. Donc je me suis dit, je vais la donner à celles qui existent ici et maintenant. Donc ma plateforme personnelle s'est transformée au fil du temps. Ce n'était pas un blog, dans la mesure où je refusais, je n'avais pas du tout envie de gérer la question des interventions, tout ce qui venait polluer un petit peu les textes par des appréciations plus ou moins agréables. Donc j'ai bouclé un peu ça et je me suis, avec mon mari, on s'est concentré. D'abord, on avait une charte éditoriale extrêmement précise et on s'est efforcé de tenir cette charte. Alors c'est plus une revue, mais une revue très personnelle qui fonctionne aujourd'hui à partir des revues de des textes que je reçois en service de presse et aussi avec tout ce que j'ai dans ma bibliothèque quand je suis un peu en panne. Je sors un livre. Moi, ma journée commence toujours comme ça. Je sors un livre, je prends un poème, s'il me parle tout de suite, s'il y a une immédiateté, il est en ligne. Voilà. Donc c'est une revue, pas tout à fait comme celle de Carole, parce que j'ai perdu la question des liens, qui était celle de mon mari, qui avait mis au point un système absolument extraordinaire. Et je suis en train d'essayer d'y voir un peu plus clair. Et je vais peut-être brancher quelqu'un qui pourra faire une analyse et refaire tous les liens externes, parce que mon mari refusait l'empilement, genre burger, vous voyez. Donc il fallait qu'on puisse circuler à l'intérieur et à l'extérieur, avec des index.
Mais c'est ça, puisqu'on l'aborde, c'est ça qui frappe dans Terre de Femmes. C'est ce travail extraordinaire, à la fois visible et caché, de référencement. Je disais que, en fait, les textes publiés sont étoilés. Effectivement, ça ouvre vers une infinité d'autres textes imprimés sur des sites virtuels. C'est un travail considérable. Je me suis dit, mais ils sont marteaux.
Oui, on était
marteaux. C'est absolument fabuleux. Bon, là, j'anticipe sur les développements que je voulais faire, mais je trouve que c'est ce qui vous singularise parmi toutes les autres qui ont une autre forme de générosité, c'est ce travail de référencement infini, multiple, de duplication. Chaque texte est feuilleté, si je puis dire. Il reçoit son feuilletage. Et c'est très beau. Alors, je vais repasser à autant là, l'effet de signature. Angèle Paoli est visible et marquée, comme elle l'a dit. C'est souvent ses lectures personnelles, ce qu'elle reçoit, ses affinités qui nourrissent son site. Ce qui me frappe beaucoup, et ce que j'aime, je dois dire, beaucoup dans Revue.net, bien qu'elle se soit un peu amendée, c'était pendant un temps, j'allais dire presque l'austérité, dans un premier temps, dans la version avant 2019 du site, on ne savait pas du tout à quoi on avait affaire. Il fallait vraiment prendre sa petite baguette de sourcier pour y aller. Et donc ce qui me frappe beaucoup dans Remu.net, je dirais que c'est une forme de silence, une forme de discrétion de la forme qui permet d'aller très très vite aux paroles de poètes. Donc j'imagine ce choix a été, même, comme je vous dis maintenant, dans ces camailleux extrêmement élégants, elle donne un peu plus à voir, ce choix, j'imagine, a été longuement étudié. Et j'ajoute aussi autre particularité, autre cette discrétion, c'est qu'à la fois, c'est un collectif qui la porte, et le collectif est lui-même discret. Il n'y a pas d'intervention, comme on le verra tout à l'heure avec Pierre Louer. Il n'y a pas directement d'intervention du collectif. Il n'y a pas de bruit.
Oui. Alors, j'aime beaucoup cette idée du silence et quel type de médiation on désire, on fantasme, on essaye de mettre en place. Bah, c'est vraiment une question active. Alors, juste une précision. À la différence de mes camarades, Remunet est un site de littérature. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un site uniquement dédié à la poésie. Et toutes les formes littéraires sont accueillies, les bienvenues. Et les formes multimédia aussi, puisqu'il y a énormément de propositions qui intègrent de la vidéo, des propositions sonores et même plastiques. Donc oui, c'est la question des chartes de la charte graphique. Alors le web évolue énormément. Et c'est vrai que pendant longtemps, on a eu une charte graphique grise et bleue, assez labyrinthique. Hein. Enfin, pour nous qui mettons la main dans le capot régulièrement, ça nous paraissait très clair. Mais c'est vrai que quand on discutait avec des usagers, ça l'était moins. Et il y a eu une refonte en 2019 très, très importante. Parce que les usages évoluent, parce que c'est des dispositifs techniques qu'on est obligé de faire évoluer en réflexion avec les usages. Oui, la position du collectif par rapport à cette question de la signature, en fait, il y a une page qui est l'ours. Hein. On peut tout à fait savoir qui a fait partie de l'équipe Remunette depuis l'origine, qui en fait partie à l'heure actuelle en 2022. Il y a aussi, donc ça c'est le comité de rédaction, hein, donc, qui gère la partie revue, qui accueille les textes et qui valide ou pas leur publication dans l'espace que nous appelons revue, qui garde une notion de périodicité. Et puis il y a aussi des pages auteurs qu'on accueille, c'est-à-dire qu'ils nous ont présenté un projet, on a accepté leur projet, on leur a donné les clés en fait de la maison. Et on leur a fourni un accompagnement technique pour qu'ils soient à un moment donné autonomes pour mener à bien leur projet. C'est plus des chroniques. Ouais. Voilà. Et puis il y a tout un autre pan du qui est la résidence.
On en reparlera. Ben alors là, un site qui n'est pas silencieux du tout, c'est Sitôt dit. Alors je ne sais pas. C'est ça, et ça serait bien que vous m'aidiez à définir de quoi est fait Sitôt dit. Les rubriques, le rubriquage est assez clair. Hein. Incitation, poète, j'ai tous nommé apparition, incitation, parution, poème et fiction. Et en plus, une sorte de mal au trésor. C'est le en plus, c'est dire la gourmandise de la revue, où il y a effectivement abondance de citations, de l'audiovisuel, du multimédia, que sais-je. Mais ce que je dis ne suffit absolument pas à définir ce qu'est Sitôt dit. Il y a quelque chose, j'aimerais bien que vous m'aidiez à le définir, quelque chose à la fois de tranchant, d'acide, parfois de malicieux, comme la charte du CNL, la nouvelle charte du CNL, parfois d'assez violent, je pense à un texte assez violent, le texte de Nathalie Quintane qui s'appelle Monstre et couillon. Qui définit assez peut-être des frontières d'ailleurs entre vos revues, vos choix. Donc aidez-moi à définir ce ton particulier qui justement, il n'y a pas d'effet de signature. À la limite, on peut aller regarder votre site sans jamais savoir que c'est vous qui le faites. Et en même temps, c'est signé.
Mais dès le départ, quand je l'ai appelé Sitôt dit, il y avait le mot taudis dedans. Donc, ce que des gens qui, comme Vincent tout à l'heure, disent « Sitôt dit » en faisant entendre le « S », semblent faire fi de ce concept de taudis, qui pour moi est une revendication dès le départ de l'hétéroclite, du mélange, au nom des affects qui se donnent libre cours dans un sens, dans l'autre, dans tous les sens. Et il a évolué, Sitôt dit, parce qu'au départ, il y avait essentiellement moi comme rédacteur. Mais après, il y a des bonnes volontés qui se sont adjointes. Et ça a procédé d'un certain assagissement général, tout en accentuant le côté hétéroclite. Mais je vous remercie, André, d'avoir provoqué cette table ronde, parce que je dois dire qu'à travers ce que vous dites et à travers ce que mes collègues disent, je découvre les autres sites que je ne vais pratiquement jamais voir. Je me le reproche. Hein.
Ça, c'est intéressant, parce qu'on en parlera tout à l'heure sur qui lit ce genre de site, enfin, les sites que vous faites, et comment on s'en sert, et qu'est-ce qu'on y lit. On y reviendra. Maintenant, je vais laisser Carole et Marilyn essayer de nous brosser un peu le portrait de recours au poème. De quoi est faite cette revue? Qu'est-ce qu'on y trouve, qu'on ne trouvera pas chez vos voisins? Effectivement, il y a aussi, parce que vous disiez, Sereine, qu'il y a les écritures et il y a un peu plus, mais chez l'un et chez l'autre, vous, parfois, il y a des rubriques, il y a une rubrique où il y a des critiques de cinéma. Vous, il y a aussi du cinéma, des arts plastiques, etc. Vous ne vous limitez pas strictement à la poésie.
Alors, au départ, elle a vraiment été créée comme une revue strictement de poésie. Mais on a élargi d'une certaine façon. Notre objectif, parce que j'aime bien traduire, c'est aussi de diffuser à l'international et de traduire et de présenter des textes venus de l'étranger. C'est un gros secteur de la publication. On essaie de travailler aussi tout ce qui peut indiquer les liens entre différentes activités artistiques, la poésie, les arts plastiques, la poésie et la musique. Je pense que c'est dans ce domaine, c'est dans cette direction-là qu'on est différent des collègues et des revues qu'on a entendues. Maintenant, si Carole a autre chose à ajouter, je pense que...
Merci. Voilà. Partage même le micro, c'est quand même quelque chose. Oui, effectivement, je voulais ajouter que nous proposons depuis peu aussi des entretiens avec les poètes filmés pour tirer parti des potentialités du numérique et puis aussi s'adresser à peut-être des gens qui n'ont pas envie de lire ou qui lisent mal ou voilà, toujours dans ce désir de porter la poésie et de l'offrir à tout le monde, voilà, et la mettre à la portée de tout le monde, c'est ça.
Mais je crois que c'est un peu la vocation de chacune d'entre nous. Mais c'est vrai, ce que vous disiez, Angèle Paoli, on a le sentiment de rentrer dans la maison, dans la bibliothèque d'une lectrice. Et c'est absolument étonnant, d'ailleurs. On voit, j'allais dire, on voit qui vous n'aimez pas, parfois. Je pense à tel ou tel poète femme, d'ailleurs, contemporaine, qui est très présente ici, qui est fort présente ici, qui est complètement absente chez vous. Non, mais ça montre, effectivement... Non, je ne crois pas que ça puisse être un oubli désormais, pour ni l'une ni l'autre auquel je pense.
Parce que ça m'intéresse furieusement.
Hors micro, si vous voulez bien. D'accord. Je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit. Non, mais ces sentiments, et puis la part de la traduction aussi, de choses traduites que vous proposez, est absolument considérable.
Oui, je pense que la partie italienne, anthologie de poésie italienne, est très très importante. Et je pense que, sans vouloir me vanter, ça m'a été dit, c'est la meilleure revue numérique de poésie italienne qui existe, même en Italie, ça n'existe pas. Donc effectivement, c'est ma seconde langue, c'est mon dada, c'est... j'ai une bibliothèque assez... Et là, j'ai acheté plein de livres et de revues de poésie italienne parce que ça me paraît fondamental de faire circuler cette poésie qui est peu traduite, qu'on trouve difficilement. Donc ça, c'est un point. Après, oui, je travaille avec les livres que je reçois d'une part. Mais en ce moment, il y a une baisse de flux que je ne sais pas comment expliquer vraiment. Donc du coup, je sors mes vieux coucous au hasard. Et le hasard fait toujours bien les choses. Je tombe toujours sur des poèmes que j'aime. Et,
excusez-moi, mais c'est pas vous qui vous occupez de la technique. C'est pas vous qui
faites la... Non. Alors, oui et non. C'est-à-dire que mon mari faisait la technique. Il est mort l'an dernier exactement demain. Et bon, c'est très, très émouvant d'être là. J'ai repris le flambeau. D'abord grâce à Carole qui m'a aidée au début, parce que j'étais complètement perdue.
Grand entretien, d'ailleurs.
Je ne savais pas comment faire. Et mon mari m'avait dit, écoute, ce n'est pas du tout ton truc, occupe-toi de la poésie, moi je m'occupe de la technique. C'était un encyclopédiste, il avait une connaissance très importante d'un tas de sujets. Et il avait mis la main dans... C'était lui qui mettait la main dans le cambouis. On travaillait en réseau tous les deux, lui à un étage, moi à un autre, je lui envoyais... Les textes que je voulais mettre en ligne. Un troisième larron, qui est notre photographe, qui, lui, s'occupait des illustrations. Moi, je m'occupais des textes. Mon mari s'occupait des mises en ligne. Après, on faisait un travail de concertation pour savoir si tout était bien, s'il n'y avait pas d'erreur dans les textes, s'il n'y avait pas d'erreur dans les liens. Mon mari est décédé et il m'avait dit, avant, je voulais qu'il m'explique, qu'il me donne des tuyaux, qu'il me mette... un minimum de choses en main. Eh bien non. Il m'a dit non, c'est pas ton truc. Tu y arriveras pas, laisse tomber. Je dis ben non, je vais pas laisser tomber 18 ans de travail, 18 ans de texte, 18 ans de poésie. Qu'est-ce que je vais devenir? Je pouvais pas vivre sans ça. Alors je m'y suis mise, je m'y suis collée, d'abord avec l'aide de Carole, puis avec l'aide de mon photographe qui m'a dit écoute, on va rentrer dans ta iPad, je t'expliquerai. Alors on travaille avec le code HTML à l'ancienne. Bon, il y a des tas de questions que je n'ai pas résolues. Notamment celle de ce fameux index alphabétique des auteurs qui permettait d'éviter l'empilement et qui permettait de sortir pour aller ailleurs, pour revenir. Il avait tout un système de circulation. Alors, je suis peut-être en bonne voie de résolution de ce problème, parce que vraiment, c'est un souci pour moi. Parce que d'abord, je me rends compte, lui, il avait un système de liens qui allait sur Twitter, qui allait partout. Donc, chaque fois que je mettais un texte en ligne, ça diffusait partout. Moi, je me suis dit, je refuse de rentrer dans tout ça, ça ne me convient pas. J'ai Facebook, ça doit suffire. Or, ça ne suffit pas, parce que des fois, je cherche des textes ou des recensions que j'ai faites, que j'ai écrites, et je ne les retrouve pas. Donc, je suis malheureuse, je ne sais pas comment faire. Et je me dis, mais il y a plein de gens qui circulaient dans Terre de Femmes d'une manière extraordinaire et tout à fait particulière, et je suis en train de saboter ce travail-là. Alors, j'espère que je vais pouvoir y remédier bientôt, après les vacances, peut-être. Mais en tout cas, le souci, c'était effectivement de pouvoir circuler partout, ouvert, en interne et en externe. Et lui, il avait un cerveau qui était fait comme ça, mais c'était pas le mien. Donc, j'ai un peu de mal à m'infiltrer dans son cerveau. Bon, c'est compliqué.
Je crois que ce que vous faites est tellement précieux que vous allez trouver gens qui vont vous aider. Le problème, c'est que c'est extrêmement dispendieux en temps, en savoir-faire, n'est-ce pas,
Florence,
compliqué. Parfois, on peut dire ça va comme ça. Hein. Donc, voilà. Mais je crois... C'est vrai que l'aspect à la fois que vous dites qui pourrait être une critique qu'on pourrait formuler sur beaucoup de revues numériques, hein, ne cachons pas, le côté empilement, le côté... Donc là, c'est à la fois taillis et taudis. C'est un peu tout. C'est extrêmement fatigant, quoi. Les revues numériques veulent être aussi réactives. Quand on n'a plus la possibilité d'être véritablement réactif, c'est compliqué. Voilà.
Mais je ne désespère pas et je continue. Voilà. Donc tous les jours, un poème en ligne, avec les moyens que j'ai acquis, et puis la perte qui est aussi quelque chose. Mais peut-être que d'autres choses vont surgir, je ne sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai découvert que je me régalais à faire ça, donc il avait tort. Donc je prouve qu'il avait tort aussi.
Alors, Pierre Lepelouer, qui écrit peu dans son taudis, mais quand même qui lâche quelques phrases qui sont intrigantes, qui vont nous amener peut-être à parler plus avant du contenu de vos publications. J'ai relevé cette phrase qui ne cesse de se faire des croche-pieds, tout en refusant l'éclectisme. Si taudis n'a pas de ligne esthétique et accueille des poètes hennis. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Comment ?
Picabia, vous m'entendez là ?
Hélas, oui.
Dans les citations, je crois que j'ai mis une phrase de Picabia qui dit « les amis d'hier deviennent les ennemis de demain » et inversement. Que craignez-vous ? Donc, je pense que ces histoires d'amis et ennemis relève de ce que je dirais des nécessités du moment, mais qui disparaissent avec le moment suivant. Et je dirais aussi que j'ai perdu le fil. Hein. Et je me perds dans mon propre taudis intérieur.
Mais disons qu'en tout cas, les choix affichés par ces taudis, c'est d'ailleurs, je crois, marqué dans son sous-titre. C'est, j'allais dire, défense et illustration, mais c'est faible. C'est une machine pour la littérature contemporaine. Donc, j'imagine qu'il y a des poètes qui ne vous paraissent pas du tout contemporains, ce qui veut dire, en gros.
Non, je ne pense pas. Je crois que ça peut changer.
Des poètes ennemis, des couillons, disons.
Oui, mais ça, c'est Nathalie. C'est une des collaboratrices qui a été implicitement évoquée par vous tout à l'heure. Mais c'est une collaboratrice qui n'est pas dans le comité de rédaction de Citoli et qui n'a pas son mot à dire, qui peut devenir mon ennemi demain.
Facile d'être votre ami durablement, alors.
Non, en effet. Ça aussi, beaucoup. Et je pense qu'il y a une autre citation dans Citoli qui est lié et connecté à ça, c'est une citation de Joseph Joubert qui disait que, donc c'est la fin du 18e, hein, Joseph Joubert, il disait « Les Français ne vont pas au théâtre pour le plaisir du théâtre, ils y vont pour juger. » eh bien, il y a un plaisir du jugement, un plaisir fort du jugement, qui est emporté dans la vitesse du web, sitôt dit, sitôt fait, mais qui peut être défait aussi bien. J'attache pas grand-chose à ça. Il y a Max Jacob, une autre citation, désolé, mais qui dit « L'art est un jeu, tant pis pour qui s'en fait un devoir ». Et donc j'insiste aussi sur cette dimension de jeu, de souplesse, de jeu dans les rouages. On donne une vision assez monolithique peut-être par endroit, mais sur les côtés, c'est très très...
D'ailleurs, on y reviendra. Je vois des poètes qui tiennent des paroles critiques dans votre revue, dans Sitôt dit, mais en revanche qui ne sont pas publiés en tant que poètes dans Sitôt dit. Mmh. Et il y en a pas mal, je n'en citerai pas. Mais voilà. Sereine, est-ce que aussi Remue.net se revendique du côté de la littérature telle qu'elle est en train de se faire? C'est-à-dire, quel type de littérature Remue.net entend-il porter, défendre, accueillir? Pour autant que ça soit simple de dessiner des contours fixes.
Oui, je pense qu'on ne peut pas définir un parti pris esthétique comme ça en quelques lignes. Je pense que les uns et les autres, on essaye de défendre, de mettre en avant des propositions qui pour nous ont de la valeur, hein. C'est-à-dire la question de la valeur, elle n'est jamais absente de ce processus. Dans la mesure où on est aussi une revue de création qui accueille des envois spontanés de jeunes auteurs, on est attentif à ça et on accorde aussi du prix au fait de publier des textes qui n'ont pas encore atteint leur niveau d'achèvement ou de maturité, mais dans lesquels on va sentir quelque chose. Et bon, on pense que ce travail d'accompagnement est aussi celui des revues. Par contre, je crois que l'alternative ami ou ennemi n'est pas du tout notre préoccupation. Je dirais plutôt, c'est ensemble ou pas. Mais ce qui ne fait pas de tous ceux qui ne sont pas là sur Remue.net aujourd'hui des ennemis. Enfin, c'est pas l'espace polémique n'est pas ou rarement notre espace d'intervention. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il n'y ait pas, bien évidemment, dans tous les choix esthétiques, une dimension politique. Je crois, enfin, la plupart. Enfin, les 20 ans de travail qu'on a accompli montrent. Enfin.
Mais justement, je vois un jeune homme à bonnet, chapeau, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce que tu as sur la tête, Patrick Beurer-Valdois. Quand il est accueilli dans Revue.net, et je crois que c'est arrivé assez fréquemment, ça se passe comment? C'est une sollicitation qu'il vous fait? C'est une sollicitation que vous lui faites, ou c'est finalement une alliance quasi naturelle ou ancienne qui trouve à se concrétiser dans votre site?
On s'arrache Patrick Beurer, hein, Florence, Sereine.
Mais c'est pour moi, ça à tout le monde. Il y a de la circulation. Ouais, chapeau.
J'avais fait un pari avec moi-même, c'était celui de prononcer aucun nom. C'est complètement fichu. Et donc je parlerai pas de la collaboration et des textes et de l'ensemble des propositions très riches de Patrick Beurer-Valdois que vous pouvez voir sur le site, mais des différents formats de collaboration qui existent. Alors il y a des jeunes auteurs et autrices qu'on ne connaît pas qui nous envoient des textes et qu'on va décider de publier ou pas. Il y a des auteurs qui nous proposent une collaboration au long terme sous forme de chronique et puis on va engager un échange. Il y a des sollicitations de notre part, de la part des différents membres du comité de rédaction. Il y a la Nuit Remue que nous organisons normalement chaque année hors pandémie. Cette année, ça sera à la bibliothèque Marguerite Audoux le 25 juin, où là, on construit un programme, on invite des auteurs, donc c'est une proposition. De même pour les rencontres que nous organisons à la Maison de la Poésie. Donc nous, on a tout un format de relations et de collaborations possibles. Être sollicité est possible. Être solliciteur ou enfin en tout cas c'est toujours dans l'échange.
D'accord. Bien, à vous. Donc est-ce qu'il y a aussi une part de choses que vous recevez volontiers, que vous sollicitez, une incitation, des fidélités à des voix nouvelles que vous avez envie d'aider à émerger?
Merci, elle me donne la précédence en raison de mon âge. Donc oui, on fonctionne un petit peu comme notre collègue. On a des sollicitations, des envois spontanés. On a des fidèles qui nous envoient régulièrement des rubriques ou des chroniques. Je pense qu'effectivement, pour nous non plus, ce n'est pas une question d'amis et ennemis. On essaie de faire un état des lieux avec nos dossiers sur les différentes formes que prend l'écriture poétique. Et on essaie, et là je pense que Carole pourra prendre la suite, on essaie de tendre la main aussi à de jeunes auteurs, à des gens qui n'ont pas encore publié, mais dont on pense que c'est prometteur et qu'ils ont besoin de ce premier pas, de ce premier geste pour accéder à la publication. Est-ce que tu...
Voilà, effectivement, je pense aussi à un jeune auteur, je ne dirai pas son nom, des jeunes auteurs qui n'ont jamais publié, et qui commencent. On est très heureux de les accueillir. Et puis, j'aimerais mettre l'accent, effectivement, sur ce mode de fonctionnement particulier aux revues numériques, puisqu'on est là pour évoquer les revues numériques. C'est cette souplesse qu'on a pour le sommaire, de pouvoir mettre en ligne, quand on veut, parce qu'on a une temporalité à respecter tout de même, sauf pour des événements ou des actualités. Mais on a une souplesse quand même de mise en ligne, voilà. Et pour évoquer ce feuilletage ou cet empilement dont tu parlais, André, c'est un feuilletage. Moi, je dirais que quand je vois les pages consultées, les gens viennent consulter d'anciens articles, des nouveaux, voilà. C'est pas du tout un empilement, justement, c'est un feuilletage, voilà.
Est-ce que
des archives vivantes.
Je pose la question collectivement, on répondra qui voudra. Est-ce que pour un poète actuel, est-ce qu'il est désormais équivalent de publier sur un de vos sites, ou finalement c'est toujours une solution d'attente, ou c'est un supplément à son espoir d'être publié sous forme papier? Parce que c'est quand même... Je ne suis pas sûr que la légitimité, dans les têtes en tout cas, soit tout à fait la même. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question?
C'est un premier pas vers une publication, la publication d'un recueil, mais pas forcément vers la publication dans une revue papier. Là, je pense qu'il n'y a pas de concurrence ou de différence de hiérarchique entre les deux. Nos lecteurs et les gens qui nous proposent des textes, je pense, considèrent Recours au poème comme un média essentiel, comme les revues traditionnelles qu'on peut feuilleter.
Pour ajouter, si vous le permettez, que je pense que c'est également complémentaire, puisque quand on regarde nos pages consultées, on est lu à l'international, ce que permet pas forcément la publication papier, donc c'est complémentaire. Ça permet aux textes de voyager, qu'ils soient publiés en recueil ou pas, et c'est une étape ou une complémentarité. Voilà.
Bien, moi, je fonctionne totalement différemment, puisque je ne publie que des textes qui ont déjà été édités. Ça m'évite d'avoir à m'arracher les cheveux, sur le peu qui me reste, et à me poser des problèmes que je suis incapable de résoudre toute seule. Alors, quand c'est comme ça, et que les gens me disent « Mais enfin, vous êtes une revue, vous ne me publiez pas », je dis « Mais il existe des revues en ligne, numériques, qui éditent des poètes non publiés, ni en revue, ni en forme de livre. Alors je leur donne les coordonnées de ces revues, je les envoie à mes collègues. Parce que moi, je ne peux pas travailler à la fois... J'ai déjà deux casquettes ou trois, je ne peux pas en prendre 10, c'est pas possible. Donc j'ai éludé le problème comme ça. Donc moi, je ne mets que des choses qui ont déjà été éditées. Voilà.
Quel sentiment ?
Oui, moi je voudrais dire que si on se fie au nombre de livres qu'on reçoit, tant par les éditeurs que par les auteurs, on voit qu'ils accordent une importance considérable aux revues numériques. Maintenant, je voudrais citer ce que disait Tardieu à propos de la radio, parce qu'on peut dire la même chose vis-à-vis du web, nous. J'avais inscrit tout au fond... C'était un des premiers à utiliser la radio, hein, Tardieu. J'avais inscrit tout au fond de mes préoccupations, comme un secret inavoué, la volonté bien arrêtée de soumettre à des fins humanistes et progressistes les nouveaux moyens techniques propres à notre temps et non de leur donner une primauté aberrante. Et donc, pour moi, le web n'a pas la primauté, on ne lui donne pas la primauté. Moi, le livre garde une dimension quand même supérieure, je ne le cache pas.
D'accord. Ben voilà une chose qui a le mérite d'être dite au milieu de tous ces éditeurs qui s'obstinent à faire des livres. Sœur Anne, vous avez une opinion sur ce sujet, sur les auteurs, la manière dont ils regardent les deux supports possibles ouverts devant eux, papier, numérique?
Moi, je pense que c'est à chaque auteur. Chaque auteur se positionne par rapport à ces questions. Et d'ailleurs, son propre positionnement peut évoluer au fil du temps. Dans l'équipe Romunette, si on travaille autant avec cet outil, c'est qu'on lui accorde du prix et de la valeur.
Est-ce que, ceci dit, pour dépasser ou être en deçà de l'auteur, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui se révéleraient rebelles au numérique? Est-ce qu'il n'y a pas des textes qui offrent une forme de résistance? Est-ce que ça aurait du sens, par exemple? Peut-être pas. Hein. Est-ce qu'un coup de dé trouverait aisément sa place dans le mode de lecture qu'il suppose sur une plateforme, tout ce que vous voulez, une revue numérique?
Je pense qu'un coup de dé, il serait très très bien en format numérique, justement. Et il y a plein de choses qui réussissent très très bien.
Est-ce qu'on lit comme ça? Est-ce qu'on lit? C'est ça, c'est aussi la question d'abord du défilement, qui est quand même à la fois une chance, parce que ça va vite, on va toujours plus vite. Hein. Je sais pas, pour faire une revue, moi, papier, je m'aperçois que je dis aux auteurs qui m'envoient bien sûr leur texte sous forme numérique, je t'ai lu vite, et maintenant j'imprime et je vais te relire, je vais te lire vraiment. Donc c'est pour ça qu'un coup de dé trouve aisément sa place sur le numérique, je veux bien le croire. Que pour les lecteurs, il trouve aisément son mode de lecture, je n'en suis moins sûr.
Peut-être que le coup de dé est un coup de départ et qu'il essayait d'envisager avec ce format quelque chose que le numérique peut réaliser bien mieux. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses qu'on peut faire avec le numérique, le travail de François Bon le montre, qu'on ne peut pas faire sur le papier. Et je pense que c'est vraiment une complémentarité, une ouverture sur d'autres possibilités du mot et du texte dans l'espace, l'espace virtuel.
Carole ?
Voilà, moi j'aimerais, oui, effectivement, ajouter que ce n'est pas le même mode de lecture que sur papier. Parce que il y a le défilement de l'écran, évidemment. Bon, il y a un format de l'écran. Il y a pas de sommaire. On peut pas tourner un objet. Donc le sommaire, on le consulte grâce aux onglets. C'est une navigation qui est totalement différente. Et d'autre part, je pense qu'il est important de prendre en compte et de penser la dimension des liens, des possibilités hypertextes. Hein. C'est-à-dire quand on lit un poème ou qu'on consulte une page ou un article, on peut aller ailleurs. On peut aller voir la bio du poète. On peut j'ai pas trouvé beaucoup d'ouvrages critiques qui abordent la question du lecteur, de la réception, comme l'avait fait si magnifiquement Umberto Eco. Mais maintenant, il faudrait qu'on pense ce support numérique qui change totalement du papier. Alors, est-ce que ça va? Oui, parfaitement. Je pense que c'est magnifique, un poème sur écran ou sur papier, mais c'est pas la même chose. Voilà.
Non, et je pense qu'il y a des auteurs qui sont en train de travailler pour des objets qui seront uniquement numériques. Et on le saura bientôt, mais on en est qu'au début.
Mais cela dit, il y a eu toute une période, je pense au moment de la création de vos propres revues, qui étaient des vraies revues de création globale, si je puis dire, qui n'étaient pas, j'allais dire, des choses qui étaient avant tout textuelles. Je pense, je ne sais plus comment c'était, incendie ou incident. Il y a eu la page blanche, panoplie, chaos, où les textes et le média, je dis, se confondaient. Enfin, l'un était fait pour l'autre. C'était une alliance très fine. Alors, ce n'est pas forcément le cas, puisque les gens n'écrivent pas pour le numérique. Ils écrivent avec le numérique. Qu'en pensez-vous, Angèle ?
Je ne sais pas. Je pense que le travail numérique est un travail artisanal. En ce qui me concerne, c'est très artisanal. Donc, moi, l'idée, c'est de respecter exactement la façon dont le texte est mis en page. Et ça, ça prend vraiment énormément de temps. C'est très compliqué. Mais finalement, ça demande plus de temps qu'un texte ordinaire. Après, il y a aussi le fait que on n'y passe 50 pages d'affilée sur le numérique. Moi, je préfère des choses brèves, des choses qui permettent de se poser. L'éclatement de la diversité m'étouffe au bout d'un moment. Donc je préfère mettre une seule chose et mettre que ça, plutôt que de devoir vadrouiller. Déjà, il y a les liens hypertextes qui se posent aussi. Mais je pense que j'aime beaucoup avoir la page de texte sous les yeux. Et après, je vois comment je vais la mettre en ligne. Et les gens qui me lisent, qui m'écrivent, me disent « Mais comment tu as fait pour faire ça ?» Il y a des textes, effectivement, qui sont très éclatés, qui sont faits pour une mise en page. Les textes, par exemple, les formats qui ne sont pas des formats A4, c'est très compliqué à mettre, à rendre, à donner le rendu. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Je respecte absolument la façon dont ça a été mis en page sur papier pour pouvoir donner une idée au lecteur du livre qu'il va aller chercher si l'envie lui prend d'aller l'acheter. Donc il y a une espèce de fidèle de... Moi, je suis fidèle, donc il faut que ça soit, le texte soit fidèle par rapport à ce qu'il est sur la forme papier. Voilà.
Merci. Et du côté de Remu.net, est-ce que ça se pose aussi la question parfois des formats des textes qui sont proposés, de leur longueur, de la difficulté peut-être, de leur lisibilité qui n'est pas immédiate, et voilà. Est-ce qu'il peut y avoir des petits problèmes techniques, des petits cailloux dans la publication ?
Oui. Alors la question de la longueur se pose, parce que souvent, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui nous envoient 50 pages et on est obligé de répondre que soit bon, il faut faire une proposition plus courte, soit on réfléchit à des formes de feuilletonnage, mais là on revient aussi à des formes anciennes, hein, finalement. Il y a ça pour les textes dont nous prenons en charge nous-mêmes, l'équipe, la mise en ligne. Et puis il y a aussi tous ces auteurs en fait, qui vont eux-mêmes mettre en ligne leurs textes, hein, à qui on va donner accès au site, hein, qui fonctionne avec le logiciel SPIP, hein, et qui vont, eux, expérimenter ce médium. Et donc, en découvrir les fonctionnalités, les possibilités, avoir une curiosité, et l'investir, chacun à leur manière, aussi comme un espace d'invention. Donc, si vous naviguez sur Remu.net, vous verrez des propositions extrêmement différentes qui intègrent parfois un jeu sur la typographie, sur les couleurs de police, sur l'insertion d'images, de vidéos, de sons, de créations sonores. Donc, pour moi, c'est un laboratoire extraordinaire d'expérimentation, d'invention, de questionnement.
D'accord. Alors, je voudrais qu'on en vienne, puisque le temps passerait très vite, à l'aspect, à la partie critique de vos revues. Et je dirais, s'il n'y avait qu'une raison de faire les revues que vous faites, ce serait pratiquement cet aspect-là, puisque comme la critique de poésie a complètement disparu, elle n'a nul endroit ou nul lieu de cité. Donc c'est une des choses tout à fait passionnantes. Et il y a des choses, et je vais encore nommer un nom, que je trouve remarquables. Je pense au dernier volume d'Étienne Faure, qui s'appelle « Vol en V », qui est magnifique, oh, j'allais dire comme d'habitude, et qui a bénéficié extrêmement rapidement dans Poésie Bao d'une merveilleuse lecture. Toi, je crois que c'est Myrto Gondigas. Hein. Et dans Remu.net, un texte d'Aude Pivin. Et donc là, ça doit être une satisfaction sans nom. Enfin, je veux dire, non. Et donc, je trouve ça très très beau. Et donc, je ne sais pas comment vous faites devant la masse des bouquins que vous recevez. Alors, je fais quand même une parenthèse avant. C'est pour vous féliciter de faire une telle place aux revues dans Recours au poème. Parce que je trouve ça formidable qu'une revue parle des autres revues. Hein, c'est quand même pas si fréquent, moi qui suis un peu payé pour la chose, si je puis dire. C'est quand même rare, parce que si les poètes n'ont pas le droit de citer, si les livres de poésie n'ont pas le droit de citer, les revues, elles, n'existent pas.
Voilà, on a un donc, mal fou, donc on le doit aussi à Marilyn, surtout. Je ne sais pas si ça fonctionne, là. Ouais. Oui. Voilà, qui insiste beaucoup sur cette rubrique, et on a un mal fou à trouver faire, et on fait nous-mêmes des recensions,
ben on sait bien.
Des revues. Voilà.
Ça, on sait bien.
Et voilà.
Alors cet aspect critique,
pardon, chez nous, il y a Tristan Hordé qui raconte des revues, mais à son rythme, il lui faut beaucoup de temps, et il va parler du dernier livre d'Étienne Faure, mais il lui faut du temps.
Mais il est quand même très très productif, Tristan Hordé. On ne peut pas dire le contraire, puisqu'on le rencontre dans Citaudit, on le rencontre dans Revue.net. Il y a comme ça quelques auteurs qui s'échangent. Et je me demande, c'est une question, là, mais la prenez en tout bien, tout honneur, avec toute la gentillesse qui me caractérise. Est-ce que dans votre entreprise, il n'y a pas quand même un petit risque de consanguinité? Voilà, je le dis comme ça, je peux développer. Sachant que quand X va écrire un bouquin, Y va rendre compte du bouquin, puis quand Y fera un bouquin, X va en rendre compte. Et en fait, en disant qu'on est ouvert, on se referme sur une petite communauté, puisque ça se comprend. Peut-être les poètes sont-ils les mieux placés pour parler de la poésie, mais parfois, il peut y avoir cette petite gêne technique.
Moi, j'essaye de faire attention à ça. De respecter des règles déontologiques malgré le côté taudis. Et récemment, j'ai refusé une contribution d'un auteur qui exigeait de passer sous pseudonyme. Je lui ai demandé pourquoi et il n'a pas pu me le dire. Donc voilà, c'est une façon de parer à la chose.
Non, mais je trouve que c'est un vrai risque pour que vos entreprises restent crédibles, qu'on sente une ouverture. C'est-à-dire qu'on finalement, moi j'aime bien quand c'est, comment il s'appelle, Ruff. Je ne sais plus chez qui il écrit, Jean-François Puff ou Ruff. Non, mais quelqu'un qui n'est pas directement engagé, peut-être, dans le même domaine poétique que les gens dont il rencontre, ou Tristan Hordé, qui, lui, n'est pas vraiment poète. C'est un regard critique.
François Huglot non plus.
Voilà, François Huglot. C'est un regard critique qui paraît un peu plus distancié. Donc voilà, je ne sais pas. Est-ce que c'est un souci ou, en fait, vous dites, l'essentiel, c'est que ce travail poétique soit nommé, critiqué, parlé.
Oui, moi je fonctionne surtout sur des coups de cœur poétiques. Donc bien sûr, Étienne Faure va me demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de temps sur ses poèmes. Alors mon vol en V, il y a des flèches partout. Ça part en vol aussi. J'ai des trucs partout écrits. Je vais faire un papier, je ne sais pas quand. Il faut que ça mature, il faut que ça mûrisse, il faut que ça imprègne. Et puis des fois, je fais un papier. Je suis très lente. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui me précipite sur la recension. Et il y a un désir qui se crée. Et je travaille avec ce désir-là, de faire connaître quelque chose que j'ai aimé. Alors, il se peut que ce soit Philippe Faure, Olivier, Étienne, oh là là, je m'embrouille tout.
On va l'appeler et autrement, il nous fatigue.
Bon, donc c'est Étienne. Mais ça peut être sur quelqu'un d'autre de pas connu que j'ai envie de faire connaître. Et par exemple, le dernier Franco Fortini, je suis passé chez nous l'autre jour, il m'a dit, mais il n'y a jamais personne qui a fait un papier. Je lui ai dit, mais j'en ai fait un, allez le voir. Il est en ligne. Franco Fortini, c'est. Faire un papier là-dessus, ça demande un substrat, ça demande un support, ça demande un investissement, ça demande de la lecture, de la relecture. Ça se fait pas comme ça. Moi, je fais pas des papiers comme ça. En plus, je suis toute seule. Moi, j'en fais 3-4 par mois, au mieux 4, pas plus.
Mais justement, je voulais demander, Sereine, comment ça se passe la partie compte-rendu critique et à revue.net ? Ce sont les critiques eux-mêmes qui vous proposent ou c'est la rédaction qui dit, bah voilà, peut-être pour, dans une sorte de continuité des choix de la revue, je ne vais nommer encore personne, il est bon qu'on rende compte du dernier livre de...
Alors, les notes de lecture critique sont peut-être pas, d'un point de vue numérique, la dimension la plus importante du site. Donc, il y a différents cas de figure. D'abord, nous ne recevrons pas de service de presse. Enfin, a priori, nous n'en demandons pas. Voilà. Enfin, bon. Ou alors, uniquement si on est vraiment sûr de faire quelque chose sur le livre. Donc, il n'y a pas toute cette gestion de stock derrière. Donc, il peut arriver que spontanément des personnes nous envoient des notes critiques. Dans ces cas-là, ça passe par le petit comité de lecture de la revue. Elles sont acceptées ou refusées. Il peut arriver que des membres de Romunet eux-mêmes souhaitent mettre en ligne une note critique. C'est les différents cas de figure.
Oui, c'était pour les savoir, puisque je disais, pour moi, c'est vraiment la chose que je lis le plus volontiers, en fait. C'est savoir, parce que d'abord, j'ai pas ce talent critique. Et puis, les livres qu'on aime, on aime bien qu'ils soient justement traités.
Oui, c'est d'ailleurs
alors, attendez,
pour ça.
Je vous interromps. Il nous reste 4 minutes désormais, et j'aimerais bien aborder...
Une minute seulement pour dire qu'effectivement, les critiques, c'est l'élément le plus important pour recours aux poèmes. C'est pour ça qu'on a une périodicité tous les 2 mois pour les poèmes, les chroniques, mais les critiques, Carole s'en occupe, et on a une série de critiques tous les 15 jours.
C'est ça. Voilà. Ça permet de...
L'actualité.
De tenir une sorte de journal. En fait.
Voilà, et puis avec des contributeurs qui viennent de tous horizons, bien entendu.
Alors, donc une question très vaste qu'on ne va évidemment pas aborder, mais Carole, vous avez déjà un peu travaillé dessus pour Recours au poème, c'est la question du lectorat. Donc on ne sait pas ce que lisent les gens, apparemment toi tu le sais, tu vas voir,
Google
décidément,
Analytics,
j'ai dû faire monter les statistiques récemment, il faut me remercier.
Ah, c'était toi qui
c'était
nous...
C'était moi, donc... Donc on ne pourra pas savoir ce que les gens lisent véritablement. Est-ce qu'ils lisent jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ferment, etc.
En plus,
ah merde, t'as vu que j'avais rien lu en entier.
J'ai tout vu, je te suis depuis.
Donc la question du lectorat. Peut-être quand même le volume du lectorat, parce que c'est le plus facile. On a tous en gros des statistiques, on voit à peu près si ça... Donc c'est, voilà, c'est combien, c'est énorme, c'est...
Pour nous, c'est gros parce qu'on travaille beaucoup. Cette semaine, pas terminée, c'est 2600 vues déjà. La nature du lectorat, ce sont des jeunes de 18 à 34 ans. Je dis des jeunes pour 60%. Voilà. Et à l'international. Il y a énormément de pays qui viennent. Voilà.
Donc je t'interromps, mais justement, pour ça, est-ce que vous pensez que le numérique a changé? Pour autant, ce sera une étude un peu fine, a changé la nature du lectorat
de la
poésie. Est-ce que ça l'a apporté à des gens qui, a priori, étaient indifférents, en tout cas qui n'y connaissaient rien du tout, Soren, à votre avis?
Oui, probablement. Ça donne accès aux quatre coins du monde, ne serait-ce qu'à des extraits. C'est une médiation qui nouvelle.
Moi, je ne le pense pas. Ah bon. Je pense qu'on a essentiellement...
Décidément, quel mauvais caractère, ça va être quelque chose de travailler avec lui. Hein.
On a essentiellement des visiteurs. Les visiteurs ne sont pas des lecteurs. Parce qu'on sait aussi le temps qu'ils passent à telle et telle rubrique. Et on voit que pour certains, ça tourne autour de 8-10 secondes. Pour moi, ce ne sont pas des lecteurs. En revanche, j'en profite pour dire qu'il y a eu 2 auteurs qui se sont emparés du web... pour faire un livre différent des autres, c'est Philippe Beck et Pierre Alféri, quand ils se sont emparés du genre du feuilleton, de la même façon que la presse, Romunet aussi. Donc voilà, ils ont travaillé sous la pression de la demande. Chaque semaine, ils produisaient un texte et c'est devenu un livre.
Alors effectivement, Google Analytics nous permet de voir le taux de rebond. Ça s'appelle et les gens lisent vraiment. C'est même très,
ça
très...
Peut être, je fais une parenthèse presque finale. Il faut toujours faire gaffe parce qu'il se trouve que j'ai fait un compte-rendu d'une revue qui s'appelle Intranquillité, qui est très très belle. Et ce numéro portait sur le thème, ça s'appelait Eros. Et alors là, ça a explosé toutes les visites du site, ce qui m'a paru bizarre. On me suis dit, bon, certes, je suis talentueux, mais à ce point-là, je ne crois pas. Donc, il faut faire gaffe. Non, dernier point, très rapidement, c'est parce que, en fait, je me demande comment ça vit financièrement. Est-ce qu'il y a besoin de sous, ou est-ce que les sous, c'est simplement une sorte de dépense, comme ça, une sorte de générosité personnelle Parce que, en fait, Remu.net fait appel, explique très bien, fait appel aux dons, enfin aux dons, je ne sais pas comment on appelait ça, à la participation financière de ces lecteurs, utilisateurs.
Alors, Remu.net, il y a un double dispositif. C'est une association, loi 1901, donc, à laquelle donc, il est possible d'adhérer pour une somme modique. Il est aussi possible de faire des dons sur le site qui fonctionne uniquement avec des bénévoles. Hein, tout le comité de rédaction est bénévole. Il y a une deuxième partie depuis 2010. C'est que Remu.net accueille les propositions, les travaux des auteurs qui sont en résidence de la région Île-de-France, qui ont la possibilité, s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation, de laisser des traces de leur travail ou de produire un accompagnement numérique de leur travail sur Remu.net. Donc c'est environ 40 auteurs en résidence par an depuis 2010. Bon, ils ne sont pas forcément tous sur Remu.net. C'est un ensemble de propositions très riches. Et cette partie-là, c'est un marché public.
C'est ça, c'est un financement de la région Île-de-France.
Voilà. Donc c'est la seule partie du site qui est financée, mais il est vrai qu'il nous a permis de supporter les évolutions techniques du site qui étaient importantes, parce qu'on ne fait pas travailler un webmaster gratuitement.
Et vous, Pierre, pour finir, vous allez avoir le mot de la fin, un mot gentil. Allez-y. Mais,
moi, c'est moi qui paye, c'est moi qui décide.
Ah bah parfait. Eh bien, on va s'arrêter là. J'aurais bien aimé continuer longtemps, mais vous pouvez continuer à discuter avec nos amis qui nous ont fait le plaisir de nous entendre. J'espère aussi de nous écouter, pas faire comme avec nos sites, aller reluquer sans s'attarder. Donc, merci à vous et surtout, allez voir le formidable travail qu'ils accomplissent dans l'ombre, en plus de leur œuvre. Disons-le.
Mais un peu dans la lumière, grâce à vous, André Chabin, et au marché de la poésie. Oui, merci.
Merci, merci. Merci. Merci beaucoup.
Merci à tous.
Dans quelques minutes, le temps de remettre un petit peu d'ordre sur la scène, nous allons recevoir Dagmara Kraus avec la Maison de la Poésie de Berlin, avec Alain Lance pour diriger cette rencontre.